9h-14h, la quotidienne d'Alexis sur Radio Marseillette.
Le bistrot du livre. Poussez la porte, asseyez-vous, et la suite, on vous la raconte. Se balader au milieu des livres, avec nos coups de cœur et nos coups de gueule, il n'y a pas de raison, des invités et les petites histoires des grands auteurs.
Le Bistrot du Livre, une émission proposée par Cépage d'Encre avec Henri et Françoise. Bonjour.
Bonjour Charlie.
Eh bien aujourd'hui, Charlie. Pas de gros plans sur un auteur ni sur un livre, non. Plutôt l'envie de revenir à notre façon sur les prix littéraires. Alors c'est l'histoire d'un phénomène, une aventure où l'humanisme prend le pas sur le profit, où le talent est enfin reconnu et de quelle manière ? D'abord, une aventure humaine, autant que littéraire. Une saga familiale, faite de difficultés et de bonheur, de drames et de passions. L'aventure de fous de littérature qui se sont lancés à corps perdu dans la quête de nouveaux auteurs et qui, aujourd'hui enfin, récoltent les fruits d'un long et patient travail. Une saga familiale qui se nomme...
Actes Sud, la maison d'édition installée à Arles, au Méjean, un quartier qui borde le Rhône.
Acte Sud, ou le tiercé gagnant de cet automne littéraire. Tenez-vous bien. Septembre, parution du quatrième tome de Millennium, l'œuvre de Stieg Larsson, poursuivi aujourd'hui par David Lagercrantz. Les trois premiers tomes se sont vendus dans la version française à 5 millions d'exemplaires, du jamais vu ou presque. Millennium, épisode 4, publié en septembre par... Acte Sud.
En octobre, prix Nobel de littérature, attribué à la Biélorusse Svetlana Alexievitch. Son œuvre en France est publiée par Acte Sud.
Enfin, novembre, 13h, chez Drouan, le prix Goncourt est attribué dès le premier tour de scrutin à Mathias Sénard pour son livre Boussole, l'histoire des liens profonds qui unissent l'Orient et l'Occident, maison d'édition, Acte Sud. Et Mathias Sénard est vraiment un enfant de cette maison. C'est eux qui l'ont découvert. En tout, depuis 2001, Actes Sud a été récompensé par deux Nobel de littérature. Le premier en 2002 pour le Hongrois Imre Kertész et trois Goncourt. 2004, Le Soleil d'Escorta de Laurent Godet. 2012, Le Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari. Et donc cette année avec Boussole. Mais il a fallu du temps, beaucoup de temps. 25 ans pour être précis, avant de connaître le succès.
Au départ, un homme, un coup de tête et une belle idée.
L'homme, c'est Hubert Nissen, un Belge, qui à la fin des années 70, vend son agence de pub à Bruxelles et part avec sa nouvelle épouse s'installer en Provence, à la bergerie du Paradou. Son idée, créer une maison d'édition en faisant la part belle aux auteurs étrangers, méconnus en France. Premier coup de génie, la découverte d'une vieille dame, une ruse de plus de 70 ans, auteur d'un livre sur la frustration, sur la jalousie d'une femme qui rêvait d'être musicienne et qui doit se contenter de tourner la partition pour une autre, une pianiste. Accompagnatrice, c'est le titre du livre. L'auteur, Nina Berberova.
Elle avait 10 ans de plus que moi et bien entendu ne le cachait pas parce qu'elle est belle et moi pas. Elle est grande, elle a un corps sain et robuste qui s'est développé naturellement et librement. Moi, je suis petite, sèche, d'apparence maladive, bien que je ne sois jamais malade. Elle a des cheveux noirs et lisses, coiffés en chignon sur la nuque. Moi, j'ai les cheveux clairs, ternes, je les coupe et les fais friser tant bien que mal. Elle a le visage rond et beau, la bouche grande, le sourire d'un charme ineffable. Les yeux noirs aux reflets verts. Moi, j'ai les yeux clairs, le visage triangulaire aux pommettes saillantes, les dents petites et espacées. Elle se déplace, elle parle, elle chante d'une manière si assurée. Ses mains accompagnent ses paroles et ses mouvements d'une façon si calme, si égale. Elle garde en elle une espèce de chaleur, d'étincelle divine ou diabolique. Elle a le oui et le non précis.
Autour de moi, je le sens, se forme parfois un brumeux nuage d'incertitude, d'ennui, dans lequel je frémis, comme un insecte de nuit frémit dans la lumière solaire, avant de devenir aveugle ou de se figer. Quand nous paraissons sur l'estrade, elle, devant, rayonnante de santé et de beauté, et moi, derrière, la robe toujours légèrement fripé, moi qui étais un peu desséché, quand nous paraissions toutes les deux.
« Bien que veux-tu encore, me disais-je, et bien que veux-tu encore dans cette vie, régler tes comptes, prendre ta revanche, comment, contre qui d'ailleurs ? Il faut filer doux. Dans cette vie-là, on ne règle pas les comptes. Quant à la vie future, elle n'existe pas. »
L'accompagnatrice de Nina Berberova, dès sa sortie, le bouche-à-oreille fonctionne. Le livre fait un tabac et on se surprend à regarder sur la couverture. Tiens, Actes Sud, connais pas. Le cinéaste Claude Miller, passionné par ce livre, on a d'ailleurs fait un film au milieu des années 80, en 85 je crois. Et puis deuxième sacrée découverte, un auteur new-yorkais, un écrivain de Brooklyn, qui sous couvert de thriller dans sa ville, vous entraîne dans des méandres métaphysiques. Et son talent de narrateur vous embarque dès la première phrase. Là encore, une découverte d'Hubert Nissen. Le nom de l'auteur, un certain Paul Auster.
C'est un faux numéro qui a tout déclenché. Le téléphone sonnant trois fois au cœur de la nuit et la voix à l'autre bout demandant quelqu'un qu'il n'était pas. Bien plus tard, lorsqu'il pourrait réfléchir à ce qui lui était arrivé, il en conclurait que rien n'est réel sauf le hasard. Mais ce serait bien plus tard. Au début, il y a simplement eu l'événement et ses conséquences. Le sujet, c'est l'histoire même. Et ce n'est pas à elle de dire si elle a un sens ou pas. Pour ce qui est de Quinn, peu de choses nous retiendront. Qui il était, d'où il venait et ce qu'il faisait n'ont pas grande importance. Nous savons, entre autres, qu'il avait 35 ans. Nous savons qu'il avait jadis été marié, qu'il avait un jour été père et qu'à présent sa femme et son fils étaient tous les deux morts. Nous savons aussi qu'il écrivait des livres, pour être précis, des romans policiers.
Cette trilogie new-yorkaise, là encore, va faire un tabac. Et l'on découvre alors que Paul Auster est aussi en Amérique le traducteur de Mallarmé, de Jean-Paul Sartre ou de Maurice Blanchot. Et sur ces deux découvertes, Hubert Nissen en parle avec la passion et la simplicité des très grands.
Un jour, j'ai reçu une lettre d'une vieille dame russe de formation et qui m'a dit « Voilà, je vous envoie un petit texte, peut-être. » Elle s'exprimait un peu à la gogole, comme ça. Et un petit texte qui, pour les petits livres de votre petite maison, etc., pourrait convenir. C'était l'accompagnatrice de Berberova. Alors, j'ai lu ça et j'ai été tellement sonné par ce truc-là que je l'ai passé à Françoise, à Christine, en leur disant « Mais... quel effet ça vous fait ?» C'était un chef-d'œuvre. L'accompagnatrice chez Berberova et la trilogie new-yorkaise chez Auster, mais qu'est-ce que ça a provoqué ? Ça a provoqué le plaisir du ou des lecteurs.
Mais malgré les succès, la maison d'édition reste un petit peu en marge dans sa bergerie de Provence. C'est que dans ce milieu-là, à l'époque, c'est Paris ou rien. Et les grandes maisons historiques, les fameux Galli-Grasseuil, comme disait Bernard Franck, comprenez, Gallimard, Grasset, Le Seuil. Regardez tout ça d'un petit peu haut. N'empêche, outre le talent, la chance est aussi au rendez-vous pour Actes Sud. Hubert Nissen a appelé sa fille Françoise en renfort pour l'aider aux côtés de sa femme et du directeur de collection Bernard Pi qui va structurer le catalogue. Et puis un jour, nous sommes en 82, un jour...
débarque à la bergerie un homme qui demande à rencontrer Hubert Nissen. « Voilà, je suis ingénieur agronome, peu de rapport avec ce que vous faites, mais je viens d'hériter d'immeubles et d'une chapelle sur les bords du Rhône, à Arles, et je voudrais en faire un lieu culturel. Ça vous intéresse ?»
Et comment ? Et Actes Sud s'installe au Méjean. Et Françoise Nissen tombe amoureuse de l'ingénieur, Jean-Paul Capitani, l'épouse, et Capitani entre dans la famille de l'édition. Ici, à Arles, au Méjean, on construira une librairie, une salle de ciné, une salle de concert... et la chapelle sera dédiée aux expos et aux rencontres. La success story déroule son fil, les auteurs affluent, Paris ne snobe plus le petit éditeur provençal, les premiers prix littéraires arrivent et les jeunes talents fleurissent sur les rives du Rhône. Ainsi, Laurent Godet, Goncourt en 2004, auteur aussi de cette superbe odyssée au temps d'Alexandre le Grand à Babylone. Son titre, Pour seul cortège.
Au premier spasme, personne ne remarque rien et ce qui l'entoure rit encore. Il a un mouvement des épaules, à peine, comme pour se protéger d'un coup invisible, un geste infime qui se perd dans la cohue du banquet. Il se plie légèrement en deux et porte la main à son ventre. La douleur est si aiguë qu'elle le tétanise pendant quelques secondes, mais avant qu'il ne crie, avant qu'il n'ait même le temps d'avoir peur, elle disparaît. La musique autour de lui est de plus en plus forte. Il reprend son souffle. Il a senti dans ses entrailles cette chose naissante, comme un affaissement du corps. Mais la douleur est passée si vite qu'il en reste étonné. Il relève la tête, constate qu'autour de lui, tous les convives continuent à rire sans que personne n'ait rien remarqué. Il demande alors à ce qu'on le resserve. Il a repris son verre et boit comme le faisait son père, à grandes gorgées sans couper le vin, jusqu'à être saoul et vaciller. Lorsqu'il repose sa coupe sur la table, il essaie de se lever mais n'y parvient pas et retombe lourdement sur sa chaise. L'alcool lui fait tourner la tête. Il sent les regards sur lui. Personne n'a remarqué qu'il a été traversé de douleur, mais tout le monde s'aperçoit qu'il est saoul. Il leur fait peur quand il est ivre.
La mort qui traverse ce roman de Godet et qui s'invite aussi chez Actes Sud. 2011, Hubert Nissen, le père fondateur, meurt. Un an plus tard, c'est le fils de Françoise Nissen qui, pour reprendre l'expression délicate de sa maman, décide d'arrêter de vivre. Il avait 18 ans, un garçon ultra sensible qui avait bien du mal à s'adapter aux contraintes de l'enseignement actuel. Alors Françoise Nissen va se lancer dans une nouvelle aventure pour offrir à ses enfants hors normes un cadre adapté. Elle avait créé il y a quelques années avec Pierre Rabhi une collection pour repenser le rapport à l'autre, à la terre, à l'humain. Cela s'appelle « Le domaine du possible ». Elle va alors créer « L'école du possible » qui a ouvert cette année à Arles avec 31 élèves. Une école tournée vers les langues, les arts et la nature. Décidément, chez ces gens-là, ces Belges du Sud, on met ses idées en acte. Et c'est tant mieux. Et si un jour, vous passez à Arles, vraiment conseil, arrêtez-vous à la librairie. Un monde d'intelligence et d'humanité vous y attend. Et puis, dernier extrait pour la route quand même, le Goncourt 2015, Boussole de Mathias Sénard, juste pour goûter la musique de son écriture.
Nous sommes deux fumeurs d'opium, chacun dans son nuage, sans rien voir au dehors, seuls, sans nous comprendre jamais. Nous fumons, visage agonisant dans un miroir, nous sommes une image glacée à laquelle le temps donne l'illusion du mouvement. Un cristal de neige glissant sur une pelote de givre dont personne ne perçoit la complexité des enchevêtrements. Je suis cette goutte d'eau condensée sur la vitre de mon salon, une perle liquide qui roule et ne sait rien de la vapeur qui l'a engendrée ni des atomes qui la composent, mais qui, bientôt, serviront à d'autres molécules, à d'autres corps, aux nuages pesant lourds sur Vienne ce soir.
Alors je sais bien qu'un journaliste ne cite jamais ses sources, sauf pour saluer une consoeur. Pour préparer cette émission, je me suis appuyé, entre autres, sur un excellent papier publié par Le Monde le 5 novembre dernier et signé Marion van Rentergem. Qu'elle en soit ici remerciée. Bon, les coups de cœur, les coups de gueule au menu maintenant. Charlie, un petit livre à nous conseiller?
Paname avec un grand classique, Zazie dans le métro de Queneau, paru en 1959. Vous rigolez, pourquoi?
Non, parce que c'est un bon choix.
Ben, c'est comme ça. En fait, on peut dire que c'est quoi, une parodie burlesque sur multiples formes romanesques. Bon, l'histoire, tout le monde la connaît. Zazie, c'est une petite fille qui arrive de sa province et qui n'a qu'une idée en tête, c'est découvrir le métro parisien. Métro où elle n'ira jamais puisqu'il se trouve qu'il est en grève. Néanmoins, elle va faire des tas d'aventures parisiennes qui sont, on peut dire, comme des épreuves qu'elle va surmonter avec brio. Elle est protégée et guidée par son oncle, Gabriel, ce n'est pas non plus anodin. Et elle pose des tas de questions, elle fouine un peu partout, elle tend des pièges. Une enfant assez terrible, sans complexe, sûre d'elle, qui ignore la politesse. C'est vrai que dans l'écriture, il y a beaucoup de jeux sur le langage, un petit peu distendu, tout ça. Et elle dit que quand les adultes prétendent que le monde est ordonné, elle ne se contente pas des apparences et elle met à nu le désordre. Alors, à Paris, elle n'y reste que 3 jours. Et pourtant, à la fin de ces 3 jours, le roman se termine ainsi. Elle dit « J'ai vieilli ». Et on n'oublie pas l'adaptation cinématographique de Louis Malle avec l'excellent Philippe Noiret.
Exactement. Et donc, Zazie dans le métro de
Raymond Queneau.
À lire aussi, si vous accrochez par le bouquin, continuez par la poésie de Queneau, c'est un vrai, vrai, vrai bonheur. Un titre à nous conseiller, Françoise?
Oui, La maladroite d'Alexandre Seurat. J'ai fini ça ce matin. Je suis encore dans le bouleversement de ce qui m'a apporté ce livre. En plus, il y a un joli hasard des dates parce que vendredi 27 novembre, dans la librairie Actes Sud, en Arles, Alexandre Seurat parlera de ce livre, La Maladroite. Alors, c'est inspiré par un fait divers, le meurtre d'une enfant de 8 ans par ses parents. Et c'est vraiment un polyphonie, un cœur de voix et de témoignages où prennent la parole tous ceux qui ont connu Diana, puisque Diana s'appelle la petite fille de ce roman, qui vient de disparaître. Tous ceux qui l'ont approchée, grand-mère, tante, enseignant, médecin scolaire, gendarme, ceux qui sentaient, savaient, redoutaient son martyre à cette fille-là, mais qui n'ont ni su, ni pu, ni voulu, ni osé franchir des cadres et comment ils ont pu la sauver, du coup. Donc c'est bouleversant, vraiment, et nécessaire, j'ai envie de dire. Donc c'est La Maladroite, Alexandre Seurat, le premier roman, je crois. Cette audition du Rouergue, qui a été fondée en 86 à Rodez, mais qui depuis 2004 est associée à Actes Sud.
Et il n'y a pas de hasard. Et puis pour moi, une découverte d'un auteur, d'une maison d'édition. Cette découverte, on l'a faite le week-end dernier à Montpellier, où il y avait une performance de lecture. Et c'était tout à fait intéressant, avec des poètes, des lecteurs, des musiciens. Et dans ce cadre-là, il y avait des stands d'éditeurs, et j'ai découvert une maison d'édition qui est à Bordeaux, qui s'appelle les Éditions de l'Abat-Jour. Et le livre, c'est « Amis imparfaits », au pluriel, de Serge Cazenave-Sarkis. Alors, Cazenave-Sarkis, c'est un grand artisan d'art, et qui se lance dans un recueil de nouvelles totalement punk, mais alors vraiment c'est du noir de chez noir, des portraits déjantés qui sombrent dans l'horreur. C'est comme des funambules de la vie qui sentent le câble céder sous leurs pieds. C'est résolument noir, mais dans un registre nouveau. Et donc je vous conseille cette maison d'édition, L'Abat-Jour. Alors ils ont comme devise, c'est simple, littérature noire, exigeante et atypique, persiste et signe depuis 2010. Édition L'Abat-Jour, c'est à suivre parce que c'est des bons bouquins. Les agendas maintenant?
Alors côté agenda, la suite du Festival du Conte de l'Imaginaire à la médiathèque de Narbonne jusqu'au 8 décembre.
Oui, un festival qui vous propose aussi des rendez-vous dans d'autres villages, d'autres médiathèques comme Périac-de-Mer ou Fleury-d'Aude. L'occasion de s'apercevoir qu'aujourd'hui, les contes d'ici et d'ailleurs ont bien évolué, les conteuses et les conteurs aussi, et que tout ne commence pas forcément par « Il était une fois ».
À Castelnaudary aussi, un festival de dessins de presse et de caricatures, 18e du nom, et c'est jusqu'au 6 décembre.
La caricature, il faut toujours garder un œil dessus. Et puis on reste dans le dessin, et quel dessin, un maître du genre à la médiathèque de Capestan, Expo des planches de Tardy, je ne saurais trop vous le recommander, sur putain de guerre. Tardy, vous savez, c'est l'obsession de la guerre de 14. Et alors des dessins, mais alors à tomber. Et puis dernière chose, parce qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, ces pages d'encre organisent, comme tous les mois, à la médiathèque d'Oupia,
un cercle de lecture, c'est à partir de 17h, c'est ouvert à tous. Et donc on parle de livres qu'on a aimés, qu'on vient de lire, qu'on conseille de lire, on en lit quelques morceaux, on boit du thé et peut-être même du vin blanc.
C'est l'occasion de se réchauffer autour des bons bouquins. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et la prochaine fois, on vous parlera d'un auteur atypique, Régis Jauffray.
Vous êtes bien sur Radio Marseillette, votre radio audoise.